l'écriture sur la deuxième photocopie provenait clairement de la même main. Mais elle était moins propre. Alors qu'il n'y avait ni rature, ni note marginale sur le fragment de poésie, ce texte en regorgeait. « Je pense qu'il a dû l'écrire en étant saoul, » dit le garçon. « Il buvait beaucoup, vous savez. Puis il a arrêté, comme ça, du jour au lendemain. Lisez-le, vous comprendrez. » Le numéro en haut de la page était 77. En dessous, le texte commençait au milieu d'une phrase. Jamais anticipé. Si les bonnes critiques ont toujours la saveur d'un bon dessert sur le court terme, on découvre qu'elles mènent à l'indigestion. Insomnie, cauchemar, même des problèmes, cruciaux avec l'âge, de transit intestinal, sur le long terme. Et la stupidité est encore plus remarquable dans les éloges que dans les attaques. Voir Jimmy Gold comme une référence, un héros même, c'est comme qualifier Billy the Kid ou Charles Starkweather, son plus proche avatar version XXe siècle, d'icône américaine. Jimmy, c'est Jimmy. C'est moi, c'est toi. Il n'est pas calqué sur Huck Finn, mais sur Étienne Lantier, le plus grand personnage de fiction du XIXe siècle. Si je me suis retiré de la vie publique, c'est parce que l'œil du public est contaminé et que je ne vois aucune raison de lui présenter davantage de matière. Comme dirait Jimmy, cette connerie... Ça se terminait là. Mais Drew connaissait la suite. Et il était certain que Hawkins la connaissait aussi. C'était la célèbre devise de Jimmy Gold que l'on voyait encore imprimée sur des t-shirts tant d'années après. « Il a fait une faute à Avatar. » C'était tout ce que Drew trouvait à dire. « Et à matière. Des vraies fautes, pas un texte nettoyé par un correcteur. » Les yeux du garçon luisaient. C'était une lueur que Drew avait souvent vue, mais jamais chez quelqu'un d'aussi jeune. Un texte vivant, voilà ce que je pense, vivant et qui respire. Vous avez vu la comparaison avec Étienne Lantier? C'est le personnage principal de Germinal d'Émile Zola. Et c'est nouveau, vous saisissez? C'est un nouvel éclairage sur un personnage que tout le monde connaît et qui provient de l'auteur lui-même. Je parie qu'il y a des collectionneurs qui paieraient une fortune pour avoir l'original et tout le reste que j'ai.
Vous dites avoir 6 carnets en votre possession?
Mm-mm. 6. Pas une centaine ou plus. Si le gamin n'avait que 6 carnets, alors il n'agissait sûrement pas pour le compte de Bellamy. Sauf si pour une raison ou une autre, Maurice avait partagé son butin. Drew n'imaginait pas son vieux pote faire ça.
Des Moleskine moyen format. 80 pages chacun. Ça fait 480 pages en tout. Avec beaucoup de blanc. C'est toujours le cas avec les poèmes. Mais il n'y a pas que des poèmes, il y a des nouvelles aussi, dont une sur Jimmy Gold enfant.
Mais question, lui, Drew, croyait-il vraiment qu'il n'y en avait que 6? Et si le garçon gardait le meilleur pour lui-même? Dans ce cas, le gardait-il pour le vendre plus tard, ou parce qu'il ne voulait pas le vendre du tout? La lueur qu'il voyait dans ses yeux le faisait pencher pour la deuxième solution, même si pour le gamin, ce n'était peut-être pas encore un choix conscient.
Monsieur? Monsieur Hallyday?
Pardon, excusez-moi. J'essayais juste de me faire à l'idée que c'est peut-être vraiment du Rothstein inédit que j'ai sous les yeux.
C'en est,
répliqua le garçon. Il n'y avait toujours aucun doute dans sa voix.
Alors, combien?
Combien moi je paierais?
Maintenant qu'ils en venaient au marchandage, Drew se dit qu'il pouvait se permettre un fiston.
« Fiston, je ne suis pas franchement Crésus, tout comme je ne suis pas entièrement convaincu que ce ne sont pas des contrefaçons. Un canular. Il faudrait que je puisse voir les originaux. »
Drew vit Hawkins se mordre les lèvres derrière sa moustache naissante.
« Je ne parlais pas de vous, je parlais de collectionneurs privés. Vous devez bien en connaître qui seraient prêts à dépenser beaucoup d'argent pour des objets spéciaux comme ça. »
« J'en connais quelques-uns, oui. »
Il en connaissait une bonne dizaine.
« Mais je ne m'aventurerai pas à leur écrire sur la base de 2 pages photocopiées. Quant à les faire authentifier par un expert en écriture, ça pourrait être risqué. Rothstein a été assassiné, vous savez. Ça fait de ces documents des biens volés.
Sauf s'il les a donnés à quelqu'un avant de se faire tuer, » répliqua du tac au tac le garçon.
Et Drew dut se rappeler encore une fois que le gosse s'était préparé à cette entrevue. Mais moi, je connais le métier, pensa-t-il. Je connais le métier et j'ai de la bouteille.
Fiston, il n'y a aucun moyen de prouver que c'est ce qui s'est passé.
Et il n'y a aucun moyen de prouver le contraire.
Impasse, donc. Le garçon récupéra brusquement les deux photocopies et les fourra dans l'enveloppe Kraft.
Hep là ! S'écria Drew, inquiet. Attends une minute !
Non, c'était une erreur. J'aurais pas dû venir. Il y a une librairie à Kansas City. Jared's Fine First and Rare Editions. C'est une des plus grosses du pays. J'essaierai là-bas.
Si tu peux attendre une semaine, je peux passer quelques coups de fil. Mais il faut que tu me laisses les photocopies.
Le garçon hésita, incertain. Puis il finit par dire.
Combien vous pouvez en tirer, vous pensez?
Pour presque 500 pages d'écrits jamais publiés, bon sang, même jamais vus, de Rothstein, l'acheteur voudrait au moins une analyse graphologique informatique. Il existe de bons programmes qui font ça. Et en supposant que l'analyse apporte la confirmation que ce sont des originaux, disons...
Il calcula le montant le plus bas à lui balancer tout en restant crédible.
Peut-être 50 000 dollars.
James Hawkins goba ou sembla gober.
Et quelle serait votre commission?
Drew rit poliment.
Fiston, James, aucun revendeur ne prendrait une commission sur une transaction pareille. Pas quand l'auteur... légalement le propriétaire, donc, a été assassiné et que l'ouvrage en question pourrait avoir été volé. Je prendrais 50%.
Non.
C'était sorti tout seul de la bouche du garçon. Il était peut-être pas encore capable de se faire pousser la moustache de motard de ses rêves, mais il était couillu en plus d'être futé.
30%. 70 pour moi.
Drew pouvait accepter ça. Se faire 250 000 dollars pour les six carnets et donner 70% de 50 000 aux gosses. Mais est-ce que James Hawkins s'attendrait pas à ce qu'il marchande au moins un peu? Est-ce que ce serait pas louche s'il le faisait pas?
60-40, c'est ma dernière offre. Encore faut-il trouver un acheteur. Ça te ferait 30 000 dollars pour des trucs trouvés dans un carton au milieu de vieux exemplaires des Dents de la Mer et de Sur la route de Madison. Pas trop mal, je dirais.
Le garçon dansait d'un pied sur l'autre, sans dire un mot, mais clairement indécis. Drew renouvela son sourire, je ne ferai pas de mal à une mouche.
Laisse-moi les photocopies. Reviens dans une semaine et je te dirai où on en est. Et un bon conseil, reste loin de Jarrett. Celui-là te fera les poches.
Je veux du liquide.
Drew pensa, qui n'en voudrait pas.
Ne mets pas la charrue avant les bœufs, fiston.
Le garçon se décida enfin et posa l'enveloppe Kraft sur le bureau en pagaille.
« Ok, je reviendrai. »
Drew pensa. « Je n'en doute pas. Et je suis sûr que je serai en bien meilleure position pour négocier à ce moment-là. » Il tendit la main. Le garçon la serra à nouveau, aussi rapidement que possible, tout en tâchant de rester poli. Comme s'il avait peur de laisser ses empreintes, ce qu'il avait déjà fait en un sens. Drew resta où il était jusqu'à ce que James Hawkins sorte du magasin, puis il s'écrasa dans son fauteuil de bureau, qui lâcha un grognement résigné, et réveilla son Mac en veille. Il y avait deux caméras de surveillance installées au-dessus de la porte d'entrée, une pointant dans chaque direction de Lacemaker Lane. Il observa le garçon tourner au coin de Crossway Avenue et disparaître de l'écran. La pastille violette sur le dos de Dépêche de l'Olympe. C'était ça la clé. L'exemplaire provenait d'une bibliothèque, et Drew connaissait toutes celles de la ville. Le violet correspondait aux éditions de référence de la bibliothèque de Garner Street, et les ouvrages de référence n'étaient pas censés circuler. Si le gamin avait essayé de le glisser sous son blouson du City College, les portiques de sécurité à l'entrée auraient sonné, parce que l'autocollant violet était aussi un antivol. Ce qui, ajouté à l'évidente passion du gamin pour la littérature, l'entraîna vers une nouvelle conclusion digne de Sherlock. Drew se rendit sur le site de la bibliothèque de Garner Street, où toutes sortes d'options s'offrirent à lui. Horaires d'été, petits et ados, événements, collection de films classiques, et, enfin et surtout, rencontrer notre équipe. Drew, à l'idée, cliqua et n'eut pas besoin de cliquer davantage, du moins pour l'instant. Au-dessus de l'onglet « Présentation » se trouvait une photo du personnel. Ils étaient à peu près une vingtaine en tout, rassemblés sur la pelouse de la bibliothèque. La statue de Horace Garner, livre ouvert en main, se dressait derrière eux. Ils étaient tous sourires, y compris son gars, sans moustache et fausses lunettes. Deuxième rang, troisième en partant de la gauche. Selon la présentation, le jeune monsieur Peter Saubers était lycéen à Northfield High et travaillait actuellement à mi-temps. Il souhaitait étudier les lettres, option sciences de la documentation et des bibliothèques. Drew poursuivit ses recherches, aidé par le nom de famille assez peu commun du garçon. Il transpirait légèrement. Et pourquoi pas? Il considérait déjà les six carnets comme une misère, un amuse-gueule. La totalité des carnets, dont certains contenaient un quatrième volume de la saga Jimmy Gold, si son taré de copain avait dit vrai toutes ces années passées, pourrait valoir au moins 50 millions de dollars s'ils étaient vendus séparément à différents collectionneurs. Le quatrième roman à lui seul pourrait atteindre les 20 millions. Et avec Maury Bellamy bien au chaud et en lieu sûr en prison, tout ce qui lui faisait barrage, c'était un ado même pas capable de se faire pousser une moustache digne de ce nom.